en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce la Chenardière.
Eugène Labiche, un académicien amuseur public, un cycle de 4 émissions proposé et présenté par Lucrèce la Chenardière pour Canal Académie. Pour le troisième volet de cette série, je reçois François Cavaignac, docteur en histoire, auteur d'une thèse d'histoire culturelle intitulée « Eugène Labiche ou la gaieté critique », thèse soutenue en 2001 à Paris 1 et éditée en partie chez l'Harmattan en 2003. Et c'est Jacques Offenbach qui nous accompagne tout au long de cette émission. François Cavaignac, bonjour.
Bonjour madame, merci de m'accueillir.
Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie. Alors je voudrais qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. L'essentiel du théâtre d'Eugène Labiche, en fait, se situe à Paris. D'ailleurs, vous avez intitulé l'un des chapitres de votre thèse « Paris est la capitale du monde », qui est une réplique de la cagnotte, donc de Labiche. Que représente ce Paris intramuros pour Eugène Labiche, François Cavaignac?
Il est évident que pour Labiche, Paris est vraiment le centre du monde et la société décrite par Labiche est avant tout une société profondément urbaine. Dans l'échantillon que j'ai utilisé dans la thèse que vous venez d'évoquer, 55 pièces sur 174, il y a à peine 1,2% des personnages qui appartiennent à l'agriculture. Alors que la réalité du monde à l'époque, si on prenait les catégories socioprofessionnelles d'aujourd'hui, le monde rural représentait 36 à 37%. Le statut social des personnages de Labiche confirme ce diagnostic. Labiche aborde le domaine des services, il traite des activités commerciales, il aborde les militaires, mais pratiquement pas d'agriculteurs. Et la ville représente pour lui vraiment le fond du décor, et même le décor lui-même, puisque la cagnotte que vous venez d'évoquer se déroule en pleine ville. Il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas négligeable, c'est celui de la position personnelle de l'auteur. Labiche, en fait, a partagé sa vie entre sa propriété de Sologne et son appartement parisien, mais il a été élevé à Paris, il a fait toutes ses études à Paris, c'est un urbain par nature, et bien que d'origine beauceronne, il reste et il restera tout le temps un homme de la ville, sa propriété de Souvigny en Sologne lui servant essentiellement à se reposer et à gagner de l'argent.
D'ailleurs, il l'a eu plus tard.
Mais il a été essentiellement un homme de la ville. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, Paris est ce que j'ai appelé le centre de gravité de son intrigue. La société dans laquelle il met tous les personnages est parisienne. Et l'habileté de Labiche, c'est de garder des traits ruraux qui sont indéniables. Mmh. Il y a beaucoup de personnages qui, quoique habitant en ville, sont restés des ruraux parce que ça commence à être l'exode rural. Mais le public est parisien, les scènes sont parisiennes, les personnages, comme je viens de l'évoquer, en grande partie parisiens. Je me suis amusé à compter le nombre d'actes dans mon échantillon qui se déroulaient à Paris. Il y en a 75%. Donc les trois quarts des actes se passe à Paris. Et Labiche va plus loin. Par exemple, dans ses pièces, il permet à ses personnages de citer des adresses de commerçants parisiens. Dans le Cachemire XBT, qui est une pièce de 1870, le jeune avocat Lancival explique qu'on lui a conseillé la maison, je cite, « Cerf et Michel, 9 boulevard des Italiens ».
Une maison qui existait réellement.
Ce
n'est pas une adresse inventée.
Oui. Pas du tout, j'ai vérifié.
Donc le commerçant devait être très heureux d'ailleurs, ça lui faisait une bonne publicité.
Alors on a accusé Labiche à plusieurs reprises d'être mercantile et certains des commentateurs de Labiche ont considéré que le fait qu'il cite comme ça des adresses de commerçants parisiens, ben, c'était pour les faire patienter de quelques créances qu'ils pouvaient avoir envers eux. Donc il y avait une sorte de retour des choses. Et l'existence historique de ces commerçants est avérée. Et de même, il y a des noms de monuments parisiens. Dans la Cagnotte, c'est la colonne de la place Vendôme qui représente véritablement le point d'attraction de tous ces provinciaux, là encore, les très ruraux de tous ces provinciaux venus à Paris. Il y a également à prendre en compte le fait que Paris, à l'époque, c'est la capitale des provinces. La France est une mosaïque de petites provinces, on a tendance à l'oublier. Et Labiche traduit cette supériorité de Paris en évoquant un peu le mépris que les Parisiens ont à l'égard des provinciaux. Et inversement, la province nourrit un véritable complexe d'infériorité. Et là, il y a un passage magnifique d'une pièce titulée « Un monsieur qui a brûlé une dame ». Il s'agit d'un pharmacien qui habite un petit village de Champagne, Vitry-le-Brûlé, et qui avoue être intimidé par un de ses clercs qui est parisien. Il le dit, c'est un jeune homme de Paris, ça m'intimide. Et le notaire lui-même, qui essaye malgré tout de ne pas s'en laisser compter, se laisse impressionner et ajoute après, c'est drôle, s'il n'était pas de Paris, je le croirais bête, mais il est de Paris. Et l'instrument de cette supériorité parisienne, c'est l'utilisation de la langue française. Tout au long de ces pièces, Labiche se moque des Auvergnats, se moque des Savoyards, se moque des Alsaciens en utilisant l'accent. Alors c'était un ressort comique traditionnel, classique sur Paris, puisque Paris s'enorgueillissait de parler la vraie langue française. Ça faisait rire les Parisiens, mais ils l'utilisent indéniablement. Et dans la in fine, je crois qu'on peut dire, pour répondre à l'ensemble de votre question, que Paris représentait ce que j'ai appelé une puissance symbolique. On a trop tendance à sous-estimer, me semble-t-il, la portée du symbole. Paris est une puissance symbolique, non seulement pour les Parisiens qui y vivent, mais pour les provinciaux. Dans l'imaginaire des personnages de Labiche, Paris, c'est le lieu cumulé du commerce, des monuments, du patrimoine, des loisirs et bien sûr des plaisirs.
Alors évidemment, il y a Paris, mais on peut dire que dans Paris, il y a encore un lieu emblématique du théâtre de Labiche, c'est le salon de la bourgeoisie, le salon bourgeois. On remarque que si Paris est la capitale du monde, en fait le cœur du monde battrait au salon, si je puis dire.
Vous avez tout à fait raison. Je crois qu'on peut dire que le salon, c'est l'épicentre du centre de gravité, véritablement. C'est le lieu où la famille se réunit, le lieu où la famille parle, elle vit au salon, elle reçoit au salon. C'est le lieu où elle est perçue par la société également. On y trouve d'ailleurs souvent le piano de la jeune fille qui fait ses gammes. On y trouve aussi les tableaux qui font toujours l'objet de commentaires de tous les visiteurs. Là, je voudrais, si vous me le permettez, sans être trop long, prendre l'exemple de la station Champbaudet, qui est une pièce de 1862 et qui illustre cette portée, cette réalité du salon. L'histoire est simple, c'est un jeune architecte, Tacarel, qui est invité par son notaire à passer une soirée chez un rentier pour un motif officiel qui est celui de construire une maison. Ce rentier veut construire une maison, rien de plus banal. En réalité, la manœuvre est tout autre, car il s'agit d'une manœuvre. On veut faire connaître à Tacarel la fille de la maison afin que le père puisse la marier. Et là, toute la famille est informée de la ruse et toute la famille se prête au piège qui est tendu. Donc on prépare matériellement l'événement, on dispose le salon, car tout va se passer dans le salon, pour la soirée. Il y a des détails extraordinaires que donne Labiche. Par exemple, on règle une lampe qui va filer parce que le verre est trop haut. On enlève les housses des fauteuils, on prépare la table de jeu, on fait reluire le sucrier en argent. On met bien sûr la jeune fille dans la confidence, parce que là, elle pourrait par sa surprise mettre à bas tout l'édifice. On habille la jeune fille avec des fleurs, des rubans, des bracelets, afin de donner le change complètement. Un court échange, un dialogue. Mademoiselle Nina, c'est la tante. Oui, il faut avoir l'air. 3 points de suspension. Et le trinquier, le père. Avoir l'air de ne pas avoir l'air. C'est parfaitement ça. Ainsi, gardons-nous de nous trahir. Faisons semblant, tout bêtement, de prendre un petit thé en famille. Et s'adressant à sa fille, « Et si je t'adresse comme par mégarde quelques frêles questions, ne va pas te troubler. » Donc, vous l'avez vu, toutes les énergies de la famille proche sont mobilisées, car outre Mademoiselle Nina que je viens d'évoquer, il y a les grands-parents qui ont été là, qui sont là, car on veut leur avis. On a convoqué un ami de la famille, car il est observateur, il a le coup d'œil sûr. Aussi, quand à 10h du soir, la sonnette tinte, il y a les derniers conseils. La tante recommande à la jeune fille de se tenir droite. Le père ordonne aux femmes de broder en gardant leur sang-froid, car une femme peut perdre son sang-froid, pas les hommes, mais les femmes, tandis que lui-même se met à lire le journal. Nous avons ainsi, dans le salon, le modèle le plus conservateur de la répartition des rôles. La femme s'occupe de la gestion domestique, la fille est soumise à la volonté paternelle pour lui choisir un mari idéal, et le père est vraiment détenteur de cette autorité et de ce savoir. Donc effectivement, pour répondre à votre question, le salon, me semble-t-il, est bien l'épicentre du centre de gravité parisien.
En fait, il est le lieu de la représentation par excellence.
Oui, il est le lieu de la représentation par excellence.
C'est presque une mise en abîme, en fait. Le théâtre est le lieu de la représentation, et dans ce théâtre, il y a le salon qui est lui-même
la biche est allée plus loin dans la mise en abîme, puisqu'il a rédigé une pièce qui s'appelle « La dame aux jambes d'azur », dans laquelle...
Quel titre ?
Oui, on va en parler. La dame aux jambes d'azur, dans laquelle les acteurs portent le nom de leur personnage et jouent leur propre rôle. Ouais. Et la pièce consiste à jouer une pièce qui se déroule mal. Ouais. Les acteurs connaissent pas leur rôle, la mise en scène n'est pas réalisée comme ils le voudraient. Là, vraiment, c'est une pièce assez sublime de la biche sur la bise en abîme que vous évoquez à propos du salon.
Alors, précisément... Vous l'avez un peu évoqué, on pourrait parler du personnel théâtral, en fait, du théâtre de la Biche. On peut dire que le premier rôle est généralement tenu par un homme, qu'on appelle monsieur, et accompagné de madame. Donc il y a ce couple vraiment central de monsieur et madame, qui peuvent généralement d'ailleurs avoir un enfant. On remarque que les enfants sont souvent uniques, et cet enfant est généralement en âge de se marier. Mais bien sûr, ce couple de bourgeois, monsieur et madame, tout seul, ça ne pourrait pas marcher, quoi. Ils seraient livrés à eux-mêmes, abandonnés aux dures lois de la réalité, donc il leur faut des domestiques. On remarque également que les domestiques, en fait, marchent aussi par couple. Il y a souvent un homme et une femme. Alors, monsieur et madame, eux, sont distribués sous un patronyme. Et puis, à l'inverse, les domestiques sont distribués, eux, sous de simples prénoms. Et en fait, je me demande si ces deux couples ne sont pas le miroir l'un de l'autre, le miroir grossissant l'un de l'autre.
C'est une question qui est fort habile de votre part et qui est très intéressante. D'abord, je voudrais répondre sur l'affaire des prénoms. Il était de coutume pour beaucoup de patrons, de propriétaires ou de domestiques de demander au domestique de changer son prénom lorsqu'il l'embauchait. C'était assez répandu à l'époque. Dans les pièces de la Biche, je ne l'ai pas trouvé. Donc la Biche, au contraire... Comme je soutiens par ailleurs que, sous couvert d'une contestation sociale, il a essayé d'inverser les rôles, la Biche n'utilise pas ce dispositif, cette mécanique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'abord, le rôle des domestiques, pour moi, m'est apparu comme fondamental dans les pièces de la Biche. D'ailleurs, la domesticité était énorme à l'époque, énorme. Et chez la Biche, dans mon échantillon, j'ai trouvé 20% des personnages qui sont des domestiques. Alors, outre cette importance quantitative, ils ont un rôle qualitatif qui est déterminant. Il ne faut pas oublier d'abord qu'ils sont dans une situation juridique de dépendance et de soumission absolue à l'autorité du maître. C'est de l'esclavage. Quasiment aujourd'hui, on le définirait comme de l'esclavage. On demande aux domestiques d'être obéissants, d'être discrets, de travailler, d'être disponibles. On les brutalise même, on les malmène. Ça, je l'ai montré dans plusieurs exemples. Ils peuvent être renvoyés à tout moment. Il est corvéable à merci. Mais là où ils peuvent être le miroir de leur patron, c'est qu'ils ont un avantage considérable. Ils sont au cœur de l'intimité de la famille. Et là, ils peuvent être tentés d'influencer leur maître. En réalité, il se crée entre les domestiques et leur patron une sorte de complicité. C'est très ambigu. La Biche l'a bien mis en valeur, j'ai essayé de le faire apparaître, c'est à mon avis évident, il y a une complicité. Et dès lors que les domestiques sentent qu'ils peuvent orienter le cours des choses, et parfois y arriver, eh bien, ils ne s'en privent pas, et on a là l'exemple du miroir du couple bourgeois et des domestiques. La plus extraordinaire, il y a une pièce qui est consacrée à ce sujet, qui s'appelle « Le Livre Bleu », qui est assez tardive chez Labiche, 1871. C'est une femme de chambre, franciscaine, qui a deviné que sa maîtresse était tourmentée. Elle se demande pourquoi elle est tourmentée, et sa première idée, c'est de dire « elle a un amant, et je vais essayer de m'en assurer ». Mais pas du tout, elle s'aperçoit que le trouble dont souffre sa maîtresse, c'est que le mari est oppressif à l'intérieur du ménage et limite la liberté considérable de sa femme. Position là aussi traditionnelle à l'époque. Et Franciscaine révèle à sa maîtresse qu'elle possède un livre qui s'appelle le Livre Bleu, qui fournit tous les prétextes possibles aux situations les plus délicates et les plus scabreuses. Alors, c'est quelque chose de très actuel, parce qu'actuellement sur Internet se développent des sites intitulés alibi.com et autres, où on vous propose la même chose aujourd'hui.
Oui, oui.
Et donc Franciscaine convainc sa patronne de laisser aller sa liberté, de satisfaire ses envies, de ne pas obéir aux injonctions de son mari, car elle lui prétend qu'en tous les cas, elle pourra lui donner un alibi recevable en toutes circonstances. L'occasion, bien évidemment, se présente, sinon il n'y aurait pas de pièce. Et le mari refuse à sa femme d'assister à un repas familial. Et là, c'est Franciscaine, la domestique, qui prend les choses en main. Elle dit à sa patronne, vous allez y aller, je vais vous habiller, de façon à ce que vous ne soyez pas paralysé par la peur, et vous irez vous-même, toute seule, à ce repas familial. Donc elle parvient à manipuler l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est aperçue que le mari, lui, courtisait une jeune femme qui s'appelle Reseda. Reseda comme les fleurs. Et donc elle a demandé à sa patronne de lui acheter un bouquet de Reseda. Et chaque fois que le patron veut faire une remarque à Franciscaine, ben elle sort le bouquet de Reseda. Et alors là, on a un exemple d'instrumentalisation théâtrale d'un objet qui est extraordinaire. Ça coupe immédiatement toute envie à Beaufrisard, le patron, de continuer. Il y a un exemple très simple. Beaufrisard est tellement excédé du comportement de Franciscaine et lui dit « Je vais vous flanquer Franciscaine à la porte. Elle est trop savante. Franciscaine, je n'ai plus besoin de vos services. Ce soir, vous ferez vos paquets. » Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris de nouveaux renseignements. Ils sont détestables. Et là, elle dit à sa maîtresse, passez-moi le Reseda. Et au moment où il lui passe le Beaufrisard, vivement, très bien, je te garde. J'ai pris de nouveaux renseignements, ils sont excellents.
Oui.
La Biche ne s'arrête pas là. Il va toujours plus loin et c'est ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'a semblé intéressant dans l'analyse de La Biche, c'est qu'il met aussi en scène des couples de domestiques. Là, j'ai parlé d'une seule. Mais pour répondre au fond de votre question, c'était le miroir homothétique, donc les deux. Et il y a une pièce dans Le Plus Heureux des Trois, c'est un couple d'Alsaciens, Krampach et Lisbeth, dont ils se moquent parce qu'ils parlent alsacien tout au long de la pièce. Et une partie de l'intrigue, c'est une intrigue croisée, La Biche aime bien superposer les intrigues et les croiser. Une partie de l'intrigue a trait au fait que Krampach est obsédé par une idée. Il veut découvrir le nom de l'homme qui a eu une relation avec sa femme avant qu'il ne se marie. Car elle fréquentait un jeune homme avant et est obsédé par ça. Donc il veut savoir les tenants et les aboutissants de cette aventure. Et pour cela, il n'hésite pas à demander à Marjavel, à son patron, de l'aider. De l'aider à questionner Lisbeth pour qu'elle avoue à son patron, toujours à cause de la relation de soumission. Et bien évidemment, le patron va essayer d'en abuser et d'obtenir de la part de Lisbeth un certain nombre d'avantages en nature. Ce qu'elle refusera, et Krampach s'en apercevra juste au moment où les choses allaient dégénérer. Et puis, il y a, alors là, c'est l'habileté suprême de La Biche, le faux couple de domestiques. Dans Un mouton à l'entresol, il y a un couple qui a embauché un couple de domestiques. Donc là, c'est vraiment le schéma que vous évoquiez dans votre question. Et le maître se laisse influencer par son domestique, parce que, toujours pareil, il veut obtenir les faveurs de Marianne, qui est la domestique. D'ailleurs, à deux reprises dans la pièce, Marianne refuse de se laisser entraîner physiquement au passage à l'acte. La mise en scène aujourd'hui serait certainement plus hardie,
plus audacieuse,
mais on y est. Et l'intrigue prend un tout autre tour quand le patron s'aperçoit que Marianne, en réalité, n'est pas la femme de son domestique. Ils se sont mis d'accord ensemble pour se faire passer pour un couple. Ils ne sont pas mariés. Et la sanction, c'est que il ne peut pas les licencier parce qu'ils font du chantage, mais il les oblige à se marier. Donc on retrouve là toujours la volonté du maître d'obliger les domestiques à se marier selon son souhait, le pouvoir supplémentaire de domination du maître, y compris sur les sentiments des valets. Tout à l'heure, on parlait du prénom, mais là, c'est sur les sentiments, vraiment l'intimité personnelle. Il y a en fait une ambivalence qui fait que les domestiques sont effectivement les copies des maîtres.
Nous remarquons également que le moment choisi par la biche pour le moment de la pièce se déroule souvent avant le mariage. On voit ça par exemple dans Chapeau de paille d'Italie ou Le voyage de Monsieur Perrichon. Les jeunes gens sont prêts à se marier ou ils cherchent un conjoint ou une conjointe. Est-ce que ce que j'appelle cette démangeaison matrimoniale qu'on trouve donc dans le théâtre de la Biche est-elle la mise en scène d'un fait social ou bien simplement un ressort dramatique traditionnel, un lieu commun qu'il utilise?
J'ai beaucoup aimé votre terme de démangeaison, à tel point que je regrette de ne pas l'avoir trouvé moi-même dans ma tête.
Je vous remercie.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mais il y a plusieurs aspects différents dans votre question. Il y a d'abord le moment d'avant le mariage, qui peut représenter soit la négociation du mariage lui-même, soit les préparatifs du mariage, soit enfin le moment fatidique de l'entrée dans la chambre nuptiale. Ensuite, à travers le terme de démangeaison qui me plaît beaucoup, je le répète, vous évoquez le problème du marché matrimonial, la quête d'une épouse, par les protagonistes masculins. Et enfin, il y a la question du ressort dramatique qui, elle, est beaucoup plus générale, mais aussi très intéressante. Pour la biche, le mariage, c'est indéniablement, incontestablement, la grande affaire de la vie. Et là, Philippe Soupeau, qui a eu un rôle important dans la Renaissance de l'attraction et de l'intérêt qu'on a exercé, qu'on a trouvé pour la biche, le relève facilement. Je voudrais citer ce court passage de Philippe Soupeau. On retrouve le thème du mariage, ou plus exactement des préparatifs du mariage, qui est un des thèmes préférés de la biche. Sauf de très rares exceptions, les intrigues adoptées par la biche se déroulent autour d'un futur mariage. Réussir son mariage, c'est d'abord réaliser une opération économique. Il faut être très franc et pour en avoir le cœur net, il suffit de lire les pièces. Il faut épouser un partenaire qui dispose d'une capacité financière qui soit à peu près équivalente ou même encore meilleure si on peut. Ou même une capacité immobilière. La spéculation immobilière allait bon train à l'époque haussmannienne. Dans le but manifeste, alors il y avait quand même un objectif, c'était de garantir l'avenir. On n'avait pas encore tous les dispositifs qu'on a aujourd'hui et qui sont souvent remis en cause. Il existe un marché matrimonial où les familles se livrent une compétition sans merci pour obtenir une fille, une jeune fille, porteur d'une dot consistante. Et donc, le mariage avec un partenaire qui n'a pas la même capacité économique, c'est typiquement une mésalliance ou alors une impossibilité. Ça, c'est évident, c'est clair, c'est régulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amour n'est pas du tout le ressort déterminant et dominant des personnages de la biche. Et ça, plusieurs l'ont fait apparaître, notamment le cinéaste René Clair.
Oui.
Deux de ses premiers films étaient des adaptations du Chapeau de paille d'Italie et des Deux timides.
Voilà.
Et Clair estimait que, je cite, « Si l'amour n'est pas absent du théâtre de la biche, il ne constitue jamais l'essentiel de l'action, comme il l'est par exemple chez Marivaux, domaine que vous connaissez, Madame le Chenardière. »
Merci.
Exemple type de ce que je viens d'avancer, c'est « Le papa du prix d'honneur », une pièce de 1868. Le père d'Achille, donc Achille est le fils, découvre fortuitement que son fils reçoit une femme dans son appartement, alors que lui, en tant que père, est l'objet d'une demande en mariage pour son fils. Donc, il va voir son fils et essaye de le convaincre. Je vais vous lire les quelques lignes de la démonstration du père. « Écoute-moi et compare. La demoiselle que je te propose a 18 ans. Elle est jeune, jolie, musicienne, robuste sans être un colosse,
oui.
Parlant l'anglais, connaissant le ménage et apportant à son mari 300 000 francs de dot. Plus un terrain. Fille unique. Je dis que lorsqu'un beau parti se présente, c'est une bêtise de le refuser. Alors devant son scepticisme, le père Gabaye, le scepticisme du fils, le père Gabaye use de l'argument d'autorité, on y revient toujours parce qu'il y avait une puissance paternelle. Hein. Maintenant, voici mon dernier mot, tu épouseras mademoiselle Cécile Dubichet. Point final.
Il n'y a pas de choix.
Il n'y a pas de choix. Et donc le fils comprend qu'il ne peut pas faire autrement, il change radicalement de position, il accepte la proposition de son père et il conclut par la phrase qui a fait fortune, « Après tout, les affaires sont les affaires ».
Voilà.
Alors, les affaires sont les affaires. On est bien dans la réponse que j'évoquais tout à l'heure. Le mariage, c'est la grande affaire de la vie. Cette formule fera fortune. Octave Mirbeau l'utilisera dans le titre d'une pièce mondialement connue. Mais on la trouve aussi dans Les Lionnes pauvres chez Émile Augier. Donc, vraiment, à l'époque, ben, le mariage était une affaire.
Était une affaire, était une bonne ou une mauvaise affaire.
Ou une mauvaise affaire. Et donc, cette affaire donnait lieu, bien évidemment, à des tractations. Obligatoirement, c'est ce que vous avez évoqué à travers le marché matrimonial. Et là, comme tout à l'heure pour le salon, la famille mobilise toutes ses capacités, toutes ses ressources. Le père utilise les connaissances personnelles, on utilise le notaire. Le notaire, à l'époque, avait un rôle important pour les mariages. Et même pour prospecter.
On n'est pas loin de Molière, alors.
On n'est pas loin de Molière. Mmh. Il y a plusieurs traits de comparaison, d'ailleurs, entre Molière et la biche. Ça vaudrait le coup de l'approfondir. Mmh. Dans La cigale chez les fourmis, d'ailleurs, il y a une jeune fille, Henriette, qui s'aperçoit des manèges de ses parents pour la marier. Et à un moment donné, elle est tellement excédée parce qu'aucun des prétendants ne va. Elle dit à son père, « Mon cher petit papa, c'est que tu n'es pas très fin, toi, tu sais. Depuis un an, combien m'avez-vous montré de prétendus incognito ? 14. » Alors, il y a aussi, au-delà de ces stratégies familiales, un peu collectives, des stratégies individuelles. Elles sont moins nombreuses. Elles sont moins nombreuses. Mais l'exemple, c'est celui de Beaudéduit, un monsieur qui prend la mouche. C'est un monsieur qui s'énerve pour un rien et qui provoque un duel dès que quelqu'un n'est pas de son avis. Le même schéma arrive à plusieurs reprises chez la biche et il révèle son obstination dans sa stratégie de découvrir l'âme sœur. Et il regarde sortir une candidate, Cécile. Il s'exclame « Voilà une petite femme comme en rêve mon célibat. Mais j'ai renoncé au mariage, j'en ai déjà manqué 17. J'ai la main malheureuse. » Alors il y a l'exagération du haut vaudeville, bien sûr, qui provoque le rire. Mais si on admet que la biche est un témoin de son temps, c'était d'ailleurs le titre initial de ma thèse, « La biche, témoin de son temps ». Ensuite, je l'ai transformé pour les éditions. Si on admet tout ça, il faut aussi considérer que, outre la démarche familiale, un peu collective, la démarche individuelle, il y a quelque chose dont l'existence m'a surpris personnellement, mais dont j'ai eu confirmation, c'est les agences matrimoniales. Il existait à l'époque des agences matrimoniales, et la cagnotte qu'on évoquait tout à l'heure, débute par une annonce matrimoniale. Mmh. Je pense que je peux la lire, si vous permettez, parce que ça donne vraiment un exemple. « Une demoiselle d'une beauté sévère, mais chez qui la majesté n'exclut pas la grâce, jouissant d'un revenu de 5000 francs placés en obligation de chemin de fer, désire s'unir à un honnête homme, veuf ou garçon, doué d'une santé robuste, d'un caractère gai et peu avancé en âge. On ne tient pas à la fortune, on consentirait à habiter une petite ville bien située. » On peut s'amuser à faire un commentaire de cet ensemble qui correspond à tout ce qu'on a dit antérieurement. Et la biche nous introduit dans le monde des agences matrimoniales, car Léonida, l'auteur de cette annonce, de son côté, c'est une vieille fille. Elle commence à vieillir et donc elle veut à tout prix trouver chaussure à son pied. Et le gérant de l'entreprise, qui s'appelle Coccarelle, explique tout le fonctionnement, et dans la pièce, on l'a bien, tout le fonctionnement de l'agence. Et ça vaut le coup, si vous voulez, que j'en parle un petit peu. Coccarelle constitue des dossiers qui sont des dossiers anonymes. Ils sont numérotés et ils ne révèlent pas à ceux qui viennent ou celles qui viennent chercher, bien évidemment, le nom, mais il a un slogan publicitaire, il dit « Ce sont les plus beaux partis de France ». Et il faut verser, comme aujourd'hui, un droit d'entrée pour une constitution de dossier, 5 louis pour la constitution du dossier. Et si ça marche, il prend une commission de 5% sur l'ensemble de la dot. Pas négligeable.
C'est énorme.
Et vous avez...
C'est très lucratif.
C'est très lucratif. Mmh. Et vous avez une classification. Il y a des entrevues de première classe avec des glaces, des petits fours, avec des danseurs. Il y a des entrevues de deuxième classe où on supprime les danseurs, puis on supprime les petits fours. Hein. Oui. Il demande à son personnel d'être toujours très bien habillé et il leur rappelle la philosophie. Ça vaut le coup, véritablement, la philosophie de l'agence. Je n'ai pas besoin de vous recommander de la tenue, de la réserve, un langage châtié, pas de mots équivoques, pas d'allusions grossières. De même, les demoiselles sont habillées, parce que si elles veulent séduire, il faut qu'elles soient séduisantes. Donc, il a une habilleuse, et Léonida, elle-même, ira utiliser ses services qui sont toujours payants. « Ah, mon Dieu, dit-elle, mais je n'ai pas de robe décolletée. » Coquerel, le patron de l'agence, « Soyez donc tranquille. Ici, oui. Tout est prévu. »
Il fournit tout.
« Veuillez conduire mademoiselle au magasin. Par là, s'il vous plaît. Vous demanderez Louise, c'est mon habilleuse. Quand vous sortirez de ses mains, personne ne vous résistera. »
Là encore, on a l'image du petit théâtre, en fait, à l'intérieur de la représentation.
Exactement.
Je partage avec l'habilleuse, c'est vraiment, il y a les coulisses.
Il y a les coulisses, il y a les coulisses, oui. Et sur la chambre nuptiale, la biche ne décrit jamais la nuit de noces. Alors, il ne la décrit jamais parce qu'il a toujours été tenté par la grivoiserie, mais il y avait la censure.
Mais il s'est toujours retenu.
Il s'est toujours retenu. Il y avait la censure aussi qui était là pour bloquer un certain nombre de choses. Et donc, il présente cet événement de façon allusive et comme étant un événement mystérieux. Mais il l'évoque quand même. Il l'évoque dans une pièce qui a eu un impact extraordinaire qui s'appelle « La Sensitive » en 1860. L'histoire est très simple, c'est un mariage et le mari ne parvient pas dans la nuit de noces à accomplir son devoir conjugal. Et la belle-mère s'en aperçoit le lendemain matin et donc elle demande à sa fille ce qui s'est passé pendant la nuit de noces. Donc la biche fait juste une évocation de ce moment. Et puis, dans le chapeau de paille d'Italie, hein, qui est la pièce qui a permis à la biche d'acquérir à la fois de la notoriété et de la richesse, oui. Il a gagné beaucoup d'argent sur cette pièce. Hélène, qui hésite à entrer dans la chambre nuptiale, se tourne vers son père. « Non, non, je ne veux pas, je n'ose pas. » Le père non en cours, « Entre, ma fille, pénètre sans crainte puérile dans le domicile conjugal. » Hélène, très émue, répond « Est-ce que mon mari est déjà là ?» « Papa, je suis toute tremblante. Papa, ne me quittez pas. » In fine, je voudrais répondre à votre importante question sur le ressort dramatique. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé à titre personnel, parce que je crois qu'il s'applique à... qu'il élargit l'ensemble de la question. C'est une interrogation fondamentale qui a été formulée avec acuité par Michel Corvin, qui dit ceci. Globalement, le schéma des pièces dans le théâtre occidental, le schéma comique des pièces dans le théâtre occidental, c'est toujours une intrigue amoureuse, quelle qu'elle soit, parsemée d'obstacles de toutes sortes. Et donc, à partir du moment où structurellement on a ce type de schéma, on ne peut pas dire qu'il représente le réel de l'époque dans laquelle il se déroule. Donc, quelle est donc la part de la convention théâtrale et de ce qui relèverait d'une peinture authentique de notre société et de la société du temps. Et sur la biche, Michel Corvin va plus loin, il est catégorique. Tant vous dire, je ne partage pas cette idée, mais je vais vous lire, par honnêteté intellectuelle, je vais vous lire le passage dans lequel il s'exprime clairement sur la biche. Je cite. « Il y aurait beaucoup de naïveté à tenir le monde de la biche pour une copie de la société du Second Empire quand il s'agit de viveurs qui cherchent à se caser en épousant une oie blanche bien dotée ou des amants aux prises avec les complications d'un ménage à trois. Sans doute, les mœurs libres de la cour de Napoléon III ont-elles déteint dans l'esprit des critiques sur l'image d'une société toujours vouée, pourtant, aux vertus bourgeoises. C'est oublier aussi que le schéma conflictuel d'un homme entre deux femmes ou entre un homme et une femme est la base de l'enjeu du jeu théâtral depuis des siècles en Occident. Ce qui trompe, c'est l'habillage bourgeois de la situation qui fait pendre pour des peintures de mœurs ce qui n'est que la coloration d'une épure dramatique. Ce qui est intéressant, c'est que Corvin, Michel Corvin soutient cela pour La Biche, mais qu'on retrouve ce type de démonstration pour la farce au Moyen-Âge. Claude-Alain Chevalier a écrit la même chose à propos de la farce au Moyen-Âge. Il ne faut pas du tout considérer que c'est un témoignage, une réplique de la société du Moyen-Âge. C'est tout simplement le fond permanent et éternel du comique français.
Oui, donc la situation de cocufiage, quoi, en fait. C'est un éternel ressort, un traditionnel ressort comique dans le théâtre, c'est vrai.
Tout à fait, donc c'est ce que vous dites. Donc,
même dans le cinéma, d'ailleurs.
Absolument. Donc, c'est ce que vous dites dans votre question. Mais sur La Biche, et je pense qu'on pourrait faire la démonstration également sur le Moyen-Âge, cette position me paraît un peu trop structuraliste dans l'analyse. Il est évident que l'historien ne peut pas l'accepter complètement, d'abord parce que le structuralisme a toujours été opposé à l'intégration de la dimension historique dans son analyse. Ça ne veut pas dire que cette analyse structuraliste ne contienne pas une part de vérité. Ce qui est dit est vrai. Il y a incontestablement un schéma unique, ou à peu près, mais il y a une autre loi du théâtre qui est oubliée dans cette position, c'est celle de l'emprunt systématique des auteurs à la société de leur temps. Et ça, on peut le démontrer, à mon avis, à tous les niveaux. L'histoire du théâtre est pleine de ces références aux conditions sociales, politiques, économiques des sujets traités, allant de la vie courante ou aux actualités politiques, religieuses ou autres. Je ne veux pas être cuistre, mais Cicéron lui-même l'avait écrit. Alors, je vous épargne la citation latine, mais la traduction française est claire. La comédie, parce qu'à l'époque, il y avait une classification des genres, la comédie, le vaudeville n'était pas encore formalisé, conceptualisé. La comédie est l'imitation de la vie, le miroir de l'habitude, l'image de la vérité. Donc, ce n'est pas un problème nouveau, c'est un problème récurrent. Mais ça veut bien dire que les auteurs, tout en construisant un schéma traditionnel, unique, eh bien, empruntent une bonne partie de leur environnement à l'histoire de leur temps. Et sinon, ce serait difficile de le faire. Et pour La Biche, ben, la critique littéraire l'a noté. Brunetière. Alors Brunetière, il faut d'ailleurs rappeler que Brunetière s'est formellement opposé à la candidature de La Biche à l'Académie française. Il ne pouvait pas se souffrir. En tout cas, Brunetière n'aimait pas La Biche. Je ne sais pas si l'inverse était vrai. Je n'ai pas trouvé de texte le disant, mais Brunetière n'aimait pas La Biche. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Thibaudet, Lançon, toute la critique littéraire, quel est l'enjeu de ces critiques littéraires? C'est de déterminer la part entre l'homme et l'œuvre chez chaque auteur. Chacun fait prédominer l'un ou l'autre, d'autres font un mélange, mais c'est un vrai problème. C'est le problème de fond de la critique littéraire. Et avec le structuralisme, l'explication érudite aujourd'hui a été remplacée par une lecture interdisciplinaire. Et il faut accepter cette lecture interdisciplinaire. On utilise la psychocritique, la sociocritique, l'histoire, la critique génétique. Ce sont des démarches qui explorent, avec des dosages différents, la même chose. Conclusion, je ne partage pas l'avis de Michel Corvin. Enfin, en tout cas, pas complètement. J'ai accepté, je crois qu'effectivement, il y a une dimension de substantifique moelle qui est vraie. Mais sur La Biche, on ne peut pas le soutenir. La Biche, par exemple, faisait parler ses personnages en fonction de leur statut. Les domestiques s'exprimaient dans leur parler et qui n'était pas celui du bourgeois. Les rapports sociaux sont authentifiés dans La Biche. C'est ce que je viens de démontrer tout à l'heure. La relation du maître et du domestique, la relation du père avec la fille, les détails de la vie quotidienne. Quand on parle des chemins de fer, il est bien évident, comme le fait La Biche, il y a même une pièce qui s'appelle « Les chemins de fer ». Il ne pouvait pas ne pas dire que ça ne correspond pas au développement du chemin de fer sous le Second Empire. Quand il parle des allumettes chimiques, il utilise souvent, donne à ses personnages des allumettes chimiques, c'était la même chose. Donc il y a une dimension historique que le structuralisme a tendance à oublier. C'est dommage, parce que je crois qu'une position un peu plus œcuménique serait plus proche de la réalité.
Après cet instant musical, Monsieur Cavaignac, je voudrais qu'on aborde le problème des personnages féminins dans le théâtre de la Biche. On dit parfois qu'il n'a pas très bien traité ses rôles féminins. Enfin, ce n'est pas votre avis, je crois.
Merci de me poser cette question parce que c'est une question qui me tient à cœur. La Biche est considérée depuis toujours comme indigne par rapport au traitement qu'il a accordé aux femmes. Il est frappé d'indignité à ce sujet. On lui reproche de ne pas accorder suffisamment de place dans ses pièces aux femmes, et on lui reproche ainsi de les disqualifier, d'autant plus que dans leur statut juridique et social, elles l'étaient déjà. Statut juridique et social, elles étaient inférieures de très loin. Alors ce jugement ne me paraît pas tout à fait recevable, et j'ai essayé de développer une thèse inverse, dont je vais essayer maintenant, profiter de l'occasion pour vous la résumer et la concentrer, mais essayer de faire en sorte qu'elle soit démonstrative. Je soutiens qu'au contraire, la Biche a su donner un rôle non négligeable aux femmes et même aller à contre-courant des idées dominantes. Alors c'est une opposition qui a été discrète, mais qui est réelle, et elle s'inscrit pour moi comme une forme avérée de contestation sociale. Faut dire les choses telles qu'on le pense. Reprenons l'opinion communément admise par les contemporains de la Biche et qui a été exprimée le mieux, à mon sens, par Meillac, qui est celui qui a succédé à la Biche à l'Académie française. Et dans son discours de réception de l'Académie française, en 1889, Meillac explique, je cite, « La Biche n'a pas écrit de rôle de femme, il y a là une lacune. Il n'y a pas d'Agnès dans l'œuvre de la Biche. Il n'y a pas de Célimène non plus, et pour dire vrai, il n'y a pas de femme, partant, il n'y a pas d'amour. La Biche les a négligés, absolument négligés. Il y a, je crois, peu d'auteurs qui aient commis cette irrévérence. » C'est lourd comme explication. On est à l'Académie française, mais quand même.
C'est péremptoire.
C'est péremptoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que 70 ans plus tard, ou 80 ans plus tard plutôt, en 1966, Marcel Achard reprend la même idée. Je vais citer aussi ces quelques lignes. Bien que leur mariage soit presque toujours l'essentiel de la comédie, on peut dire que les femmes, ce sont d'ailleurs le plus souvent des jeunes filles, n'existent pratiquement pas chez la Biche. Elles sont l'enjeu de la partie, la cause est le but final de l'agitation générale, mais leur caractère est surtout un manque de caractère. Il semble que l'auteur ait dit à ses héroïnes « Sois belle et tais-toi », toutes, ou presque toutes, sont les Mélisandres de la rue du Sentier. Si on analyse quantitativement, je dis bien quantitativement, les pièces de la Biche, on pourrait penser que Meillac et Marcel Achard ont raison. Et même, la Biche a frôlé le pire parce qu'il a écrit deux pièces dans lesquelles il n'y a aucun personnage féminin. Un jeune homme pressé et un monsieur qui a brûlé une dame. La Biche, d'ailleurs, ne se départit pas d'une partie des stéréotypes qui caractérisent le comportement féminin. Son témoignage accable les femmes, alors pardonnez-moi madame, mais il les accable des défauts, rigidité, impatience, rudesse, autant de traits qui ne les rendaient guère dociles vis-à-vis de leur mari et donc à la limite qui justifiaient l'autorité du mari. Et quant aux jeunes femmes, et surtout les jeunes filles, il les considère comme rouées, légères et dépensières. Donc avec tous ces qualificatifs, effectivement, on peut penser que la Biche est restée dans le stéréotype des femmes et qu'il n'y a pas de femmes chez lui.
De toute façon, c'est une habitude au théâtre, même dans tout le théâtre qui l'a précédé. On a, dans une distribution, s'il y a une quinzaine de rôles, il y a deux, trois personnages féminins, et puis c'est tout. Il y a le premier rôle, la suivante, et puis ça s'arrête là, souvent. Chez Molière, chez Racine, chez Shakespeare, vous avez derrière Desdémone, il y a deux autres personnages féminins dans Othello. Enfin, ça n'est pas très original, hein, ça.
Alors vous avez
Après,
raison.
C'est ce qu'on en fait de ces rôles.
Absolument. Vous avez raison parce que il va même jusqu'à faire dire à l'un de ses personnages, chiffonné, à sa propre domestique, Prunette, « Écoute-moi, Prunette, Tu es de l'étoffe, des lisettes et des martons dont fourmille le répertoire du théâtre français. Ce sont des démons femelles, le type de la fourberie et de la duplicité. Je m'excuse, c'est la biche qui parle.
On a l'habitude, hélas.
En réalité, et c'est la deuxième partie de ma tentative d'argumentation, moi je pense que la biche a une position beaucoup plus nuancée. La soumission au mari est beaucoup plus réduite qu'on ne le croit généralement, car dans ces pièces, la biche met plusieurs femmes et certaines jeunes filles qui ont un caractère affirmé, ou même qui tiennent des propos libérateurs avancés pour l'époque. Et dans quelques pièces, certaines ont un rôle déterminant. Elles maîtrisent complètement l'intrigue, ou mieux, elles obtiennent, au final, ce qu'elles souhaitaient obstinément depuis le début. Alors c'est passé au travers, et je me suis interrogé sur les raisons de cette invisibilité des personnages féminins chez la biche. À mon avis, elle vient du fait qu'elles ne tiennent un second rang que dans les grands succès de la biche. Et les commentateurs se sont laissés prendre par ce qui étaient les grands succès de la biche. J'ai d'ailleurs été questionné lors de la soutenance sur ce sujet, parce que si j'avais écouté les collègues ou les amis universitaires qui me donnaient leurs conseils, il fallait d'abord travailler sur les pièces principales les plus grands succès. Pour moi, c'était une erreur. J'ai constitué un échantillon qui tenait compte justement d'un certain nombre de pièces qui n'avaient pas été des succès ou même qui ont été des échecs. Car un auteur, encore une fois, me semble-t-il, il faut le prendre de façon cohérente, de façon globale, sur toute sa vie et tous les impacts et les obstacles qu'il a pu traverser. Alors peut-être on peut dire que aucune des différentes femmes, personnages, ne se hisse au niveau d'Agnès ou de Célimène. Certes, mais pour ma part, il y a aussi la différence qui existe et qui pèse beaucoup entre le vaudeville et la comédie. Ça me paraît indéniable. Le genre justifie une forme d'invisibilité. Mais je voudrais reprendre ce à quoi je m'accroche sur la description de la biche. C'est que dès 1846, c'est-à-dire tout à fait au début de sa carrière, la biche a écrit une pièce qui s'appelle Frisette. Et Frisette, c'est une ouvrière en dentelle qui affirme, à l'époque, je répète, 1846, avant la révolution de 48, qui affirme que la liberté des femmes est la condition essentielle de leur bonheur. Et alors, elle l'affirme toujours de façon un peu comique, il faut aller lire les textes au-delà des apparences. Elle l'affirme à travers le couplet. Alors, le couplet était à l'époque chanté, donc ça a donné effectivement davantage le rire, la plaisance et autres, et on prend moins au sérieux. Mais quand on lit les textes, moi je vais vous lire le couplet qu'elle chante, qui me paraît quand même explicite. Je cite « Vivre en liberté, de sa jeunesse être maîtresse, hiver comme été, suivre toujours sa volonté, conserver son cœur et d'un œil moqueur voir tout séducteur, prendre pour tuteur sa joyeuse humeur, voilà le vrai bonheur. Sans souci, sans amour, de peu je me contente. Le travail chaque jour vient me payer ma rente. Mon avoir est léger, mais faut-il obliger que le malheureux se présente ? J'ai de quoi partager, vivre en liberté, de sa jeunesse, être maîtresse, etc. etc. » Donc on a là une ouvrière. À l'époque, la biche soutenait des idées républicaines. Il a maintenu cette opinion, cette quête de la liberté sentimentale. Elle a été réaffirmée bien plus tard, en 1860, dans une pièce, Les Deux Timides, où Cécile, la fille de la maison, exerce une véritable fonction de résistance. Elle est déterminée à ne pas se laisser faire, ni par les individus, ni par les circonstances, ni par son père. Alors, on lui met dans les jambes un prétendu qu'elle ne veut pas épouser, elle décide de brusquer les événements, il y a des quiproquos, il y a des rebondissements, elle invente des événements pour ne pas se laisser faire, pour ne pas être passive et pour conquérir son bonheur. Et cette trame d'une volonté féminine, moi qui m'est apparue comme inflexible avec le temps et qui parvient à ses fins, je considère qu'il y a deux personnages clés de la biche qui sont systématiquement oubliés par la critique, mais qui existent dans cette perspective-là, dans cette description-là. Il y a d'abord un personnage qui s'appelle Hermance dans Le papa du prix d'honneur, qui est une pièce de 1868, et une deuxième, Loïsa, dans Le prix Martin, 8 ans plus tard, en 1876. ce ne sont plus des jeunes filles ingénues, ce sont des femmes mûres. Elles ne sont plus du tout obéissantes, ce sont des femmes accomplies et qui luttent pour obtenir ce qu'elles veulent. Je voudrais juste décrire ce qu'elles ont fait dans ces pièces de Labiche. Hermance. Hermance est une femme mariée, mais elle est en même temps la maîtresse d'un jeune homme. Et elle manifeste dans cette liaison un tempérament véritablement ombrageux, jaloux, et au point qu'elle refuse à son jeune amant le droit de se marier. Donc elle veut le conserver pour elle toute seule. Et elle lui dit « Je vous préviens, je ne suis pas d'un caractère à souffrir une rivale. » Et donc elle lui explique que si il se marie, elle va le tuer et se suicider ensuite. Alors ça fait immédiatement monter la tension du pauvre Achille qui voudrait se marier et se libérer de sa maîtresse, un peu encombrante. Mais Hermance ne veut pas se laisser faire, elle tient à son jeune amant et elle va s'opposer à toute la société qui l'entoure. Pour parvenir à ses fins, elle emploie tous les moyens. D'abord, elle suscite la jalousie en courtisant le cousin de son mari pour que le jeune homme soit jaloux. Il a un coup de foudre pour elle, donc elle essaye d'en profiter, mais elle sait jusqu'où elle va. Elle refuse de passer à l'acte. Elle donne les apparences, mais elle refuse. Ensuite, elle brandit l'intimidation en disant à son amant, c'est très simple, je vais révéler que tu es mon amant. Alors pour un jeune homme
de
bonne famille, c'est la catastrophe, c'est l'arrêt complet, en tout cas momentané, de tout son avenir. Et d'ailleurs, elle est tellement déterminée qu'elle va mettre à exécution sa menace, mais elle est d'une habileté diabolique, personne ne va comprendre que c'est elle dont il s'agit. Donc elle réussit à révéler que le jeune
Achille a une maîtresse,
mais ce n'est pas elle, personne ne sait c'est elle. Sauf le père qui va le découvrir, à un moment donné, à la fin de la pièce, va y arriver. Mais elle déjoue le stratagème, parce qu'il y a tout un stratagème. La pièce est toujours pareille, comme je disais tout à l'heure, des empilements de différentes intrigues. La pièce est assez complexe. Le stratagème qui lui est tendu, elle résiste à la pression sociale et elle va réussir à rester dans cette situation-là. Le jeune garçon ne sera pas marié et elle va rester la maîtresse du jeune. C'est quand même une volonté. Et c'est bien décrit par Labiche. On sent tout le combat de cette femme qui est, d'ailleurs, qui méprise son mari. Peut-être j'aurai l'occasion de vous le dire tout à l'heure. Le deuxième personnage, alors c'est peut-être pas Agnès ou Célimène, mais ce sont des femmes qui réussissent à obtenir ce qu'elles veulent. La deuxième, c'est Loïsa. Loïsa, elle domine toute la pièce qui repose sur le dogme de l'amitié entre deux hommes, Martin et Agénor. Deux hommes qui sont amis. Alors, elle est l'épouse de l'un d'entre eux et elle est la maîtresse de l'autre. On retrouve le schéma existentiel.
Ça les réunit.
Qu'on a évoqué tout à l'heure. Et comme vous le dites, ça peut les réunir. Encore que des fois, il peut y avoir des oublis comme ça ou des difficultés. Mais là où tout se complique, c'est qu'elle devient amoureuse d'un troisième homme, évidemment.
Elle est insatiable.
Elle est insatiable, oui, peut-être insatisfaite, je ne sais pas. Et elle veut partir en Amérique avec son nouvel amant, qui est un Sud-Américain, Martinez, trompant ainsi ses deux amis.
Mais, enfin, son mari et son amant.
Mais elle a une personnalité trempée, elle refuse les arguments qui lui sont opposés et elle demande à son amant de parler d'égal à égal. Elle refuse l'autorité que l'homme, du fait qu'il était un homme, bien que son amant, voulait exercer sur elle. Dans l'échange intellectuel, l'échange intellectuel pour les questions sentimentales. Et elle partira avec Martinez. Alors, vous voyez, dans ces deux personnages féminins, le rôle que Labiche leur confère est quand même fondamentale, elles influencent les intrigues, elles pèsent sur les attitudes masculines. Moi, je l'ai noté, le mari d'Hermance est totalement infantilisé devant sa femme. Alors ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, ce serait une aversion, là aussi. Et Loïsa n'hésite pas à dire à son amant qu'il est peureux, que c'est un couard, et elle lui manifeste ouvertement son mépris. Et son propre époux, alors, parce qu'elle met le chahut dans tout l'ensemble de l'équilibre de tous les hommes, la traite d'Hélène moderne. Cette partie de cette démonstration, c'est une partie positive. Elle consiste à dire « Labiche a quand même donné à certains nombres de personnages féminins des rôles importants ». Je crois qu'il faut encore une fois aller plus loin, et ça c'est le rôle du commentateur, c'est le rôle de l'historien, de ne pas se fier aux simples apparences. Il y a un point qui est beaucoup plus général, c'est que Labiche donne aux femmes de son théâtre la possibilité de mener un double jeu. Et moi, je considère que sous couvert de soumission au mari ou au père, eh bien, elles essayent, ces femmes, toutes ces femmes, essayent de mener leur vie à leur guise, sans se laisser impressionner. Elles retournent les contraintes qui pèsent sur elles à leur avantage. Elles donnent le sentiment, à tout moment, de pouvoir influencer le cours des choses comme elles l'entendent. Et, par exemple, Henriette, la fille de M. Perrichon, pour lequel deux jeunes hommes sont en concurrence, en démangeaison.
En démangeaison.
Pour reprendre votre excellente expression. Eh bien, lorsque Henriette dit qu'une jeune fille doit toujours être du même avis que sa mère, ça c'est l'affirmation apparente. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a convaincu sa mère d'être de son avis
oui,
à elle.
C'est ça qui se passe en réalité.
C'est ça qui se passe en réalité. Et donc, elle a vraiment dominé sa mère avant de dominer son père par la suite. Un autre exemple peut être retenu et qui va dans ce sens. Dans La Poudre aux yeux, c'est une histoire assez marrante. Deux familles essayent de s'impressionner l'une l'autre en inventant des caractéristiques ou des richesses qu'elles n'ont pas, mais pour justement, faisant de la surenchère, essayer d'obtenir le mariage de leurs enfants. Alors, il y a des mensonges, il y a des parties comiques et autres, c'est La Poudre aux yeux, c'est tout à fait le texte. Mais à un moment donné, la situation est bloquée parce que les deux pères qui sont en train de négocier la dot font tellement de surenchères qu'ils ne peuvent plus suivre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils conviennent tous les deux que c'est la faute de leur femme. C'est quand même assez extraordinaire. C'est révélé par le fait même que celle qui tient la véritable organisation sociale et familiale, c'est la femme, parce que eux, ils sont là en train de négocier de l'argent. Échec, ils disent c'est la faute de nos femmes. C'est accepter le rôle fondamental de ces femmes-là. Et l'historien culturel aime bien aller voir l'environnement et non pas se concentrer uniquement sur une focale. En 1857, il y a eu une pièce qui a eu beaucoup d'impact, La question d'argent d'Alexandre Dumas. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire de la question d'argent? C'est une femme bourgeoise qui a été pendant 30 ans complètement annihilée par son mari et qui, à l'occasion d'une crise familiale, se révèle soudain. On s'aperçoit qu'elle pense bien, qu'elle a des positions de bon sens et elle hausse le ton pour imposer sa situation et rétablir un peu de rationalité dans tout ce qui filait. J'ai vu cette pièce il y a 3 ou 4 ans, et si elle repasse, je vous conseille d'aller la voir, elle est magnifique. Toujours dans cette même perspective des femmes qui retournent les contraintes à leur avantage, ce qui est extraordinaire, c'est l'adultère. Quand on écoute les hommes qui peuplent le vaudeville de la biche, on voit qu'ils se glorifient de leur conquête, mais ils ne vont pas chercher en dehors de leur monde les femmes avec qui ils ont des relations. Ce sont des femmes de leur monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les femmes qui ont des relations coupables pour l'époque avec eux aux yeux de la morale, ce sont les femmes de leurs amis qui appartiennent à la même classe sociale. Ça veut dire quoi aussi? C'est que les femmes acceptent en toute liberté une liaison. Elles acceptent de prendre des risques parce que juridiquement, la femme était plus coupable que l'homme à l'époque. Et donc, on n'a pas simplement des veuves, on a des femmes qui passent à l'acte en toute connaissance de cause. Et de ce point de vue, me semble-t-il, elle manifeste une liberté psychologique et une autonomie d'action. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement en psychologie, elle passe à l'action, qui constitue, pour moi, autant de points de défense que Labiche a voulu accorder à ces femmes. Il y a une duplicité des femmes. Il le dit, Labiche, elles sont duplices, mais pas du tout dans le sens où elles sont rouées pour tromper systématiquement. C'est qu'elles ont les capacités de le faire. Et en permettant aux femmes de prendre ainsi leur revanche sur les maris ou même sur les amants, qui n'osent pas d'ailleurs, eux, regarder la situation en face.
Il ne s'agit peut-être pas seulement de revanche, il s'agit aussi de trouver sa liberté, quoi.
Oui, c'est ce que je dis.
Entre les hommes et les femmes, c'est pas seulement... Il n'y a pas nécessairement de revanche à prendre.
Non, il est vrai que c'est plutôt pour leur liberté. C'est souvent le mot qui revient dans les répliques féminines.
Parce que c'est de ça qu'elle manquait le plus.
Absolument, en fait. Oui. Et il y a une occasion du mépris que certaines femmes portent à leur mari, c'est Madame Le Grénard. Madame Le Grénard est une femme qui a un défaut, dès que quelqu'un ne lui plaît pas ou lui fait une remarque qui lui déplaît, elle le gifle. Donc ça provoque des grèves dans l'entreprise qu'ils ont, ça provoque toute une série de rebondissements et autres. Et elle dit à son futur gendre, à un moment donné, elle lui dit « Pour toutes les affaires sérieuses, c'est à moi que vous vous adresserez, parce que mon mari, c'est un zéro. » C'est elle qui tient l'entreprise. Là, on n'en parle pas. Alors, je le développe moins sur Madame Le Grénard, parce que elle n'a pas quand même la volonté, l'épaisseur psychologique de Hermance ou de Loïsa que j'évoquais antérieurement. Pour conclure sur ce long chapitre sur les femmes, qui me passionne comme vous le sentez, Labiche esquisse le portrait d'une femme qui a accès à la culture. Ça, il ne faut pas oublier l'accès à la culture. Elle a une fonction de représentation et de relation sociale intense. Elle maîtrise sa sensualité. Elle assume pleinement ses missions de mère de famille. On se trouve, me semble-t-il, devant une femme qui conquiert sa liberté pour construire elle-même son destin. Et donc, à travers ça, je pense qu'on ne peut plus dire que Labiche est frappée d'indignité à l'égard des femmes.
Vous citez dans votre thèse le dictionnaire du Second Empire, dirigé par Jean Tullard, où il écrit dans son article sur Labiche, je cite, « Plus que d'autres écrivains, Labiche symbolise la littérature du Second Empire. Il est en effet le peintre le plus fidèle de la société de son temps, qui en a fait son auteur favori. » Cette façon de dire que Labiche symbolise la littérature me questionne et je la mets en face de la formule titre d'ailleurs d'Emmanuel Eman, Labiche ou l'esprit du Second Empire, ce qui est le titre de la biographie qu'il a éditée chez Olivier Orban. Est-ce que ça ne serait pas plus juste, François Cavaignac ?
Si, la formule d'Emmanuel Eman est très belle. J'ai été amené à critiquer le texte qu'il a écrit, mais c'est une critique universitaire, scientifique. Je reconnais tout à fait que c'est une très belle formule et qui correspond à la réalité. Simplement, il faut replacer cette formule et dans votre question dans une perspective plus générale. Parce que Labiche a donné lieu à plusieurs modèles explicatifs. Il y a plusieurs écoles qui interprètent Labiche. Et donc, si on veut répondre au fond de la question, il faut partir de ces interprétations de l'œuvre de Labiche. Et pour ma part, je pense être le premier à avoir essayé d'établir une classification des différentes écoles ayant travaillé sur Labiche. Je dirais qu'il y a cinq, comme je l'ai dit, cinq grands modèles. Il y a d'abord deux écoles qui se partagent la majorité de l'interprétation. Ce sont les courants de pensée qu'on peut qualifier d'école traditionnelle et d'école moderne. Il y a un auteur, Jacques Gilardot, qui a une position intermédiaire. Et puis, il y a l'idée très largement répandue qu'on fait de Labiche un précurseur du surréalisme. Et il y a également une analyse structuraliste. Alors, l'école traditionnaliste, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle soutient globalement que Labiche n'a pas voulu faire de politique, ni n'a voulu donner de messages idéologiques ou autres. Pour eux, pour l'école traditionnaliste, Labiche est un amuseur, c'est d'ailleurs le titre, là aussi, très pertinent de notre émission, un amuseur qui amuse son public sans arrière-pensée politique ou sociale, il veut divertir uniquement. C'est au fond le continuateur du rire français. Alors, ceux qui soutiennent cette thèse, c'est Emmanuel Eman, c'est Henri Gidel, c'est Jacques Robichet. Le premier à avoir contesté cette idée, c'est Philippe Soupeau. Philippe Soupeau qui a écrit en 64 un livre sur Eugène Labiche et qui conteste cette appréciation en disant « Attention, Labiche n'est pas du tout l'auteur que vous pensez qu'il est. C'est un homme qui a apporté un témoignage fidèle sur la société de son époque. » Et ce témoignage fidèle est cruel. Il conteste, au fond, les bourgeois. Même s'il y a un paradoxe à ce soit des bourgeois qui soient venus assister pendant 40 ans à des pièces qui les mettaient en cause. Cette analyse de Philippe Soupeau a eu un effet considérable dans les années 70. Le livre de Soupeau il sort en 64. Des jeunes metteurs en scène comme Peter Stein en Allemagne, Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent en France, ont remis en cause à travers la mise en scène les scénographies entièrement rénovées, ils ont joué sur l'affaire de la rue de l'Ourcine ou la cagnotte notamment. La position intermédiaire de Gilardot est intéressante. Parce que Gilardot, lui, dit « Labiche aurait aimé écrire des pièces plus consistantes, mais il a eu des échecs. » Effectivement, il y a eu des pièces qui n'ont pas très bien marché. Et donc, il s'est tourné vers le rire. Ce qui fait que certains l'ont accusé de faire du mercantilisme. Jacques Gilardot souligne d'ailleurs que Labiche, et là je partage son avis, a utilisé les grands ressorts comiques qui étaient à sa disposition, c'est-à-dire la farce, la comédie des mots d'esprit, et qu'il a parallèlement su décrire le bourgeois, un peu comme Henri Monnier ou Balzac. La vision surréaliste, elle, me paraît plus contestable. C'est pourtant une vision qui a cours depuis de nombreuses années et qui est toujours existante, notamment dans les milieux artistiques. Vous ne pouvez pas avoir une représentation aujourd'hui, une recréation d'une pièce de Labiche, sans que le metteur en scène cite que Labiche est un des précurseurs du surréaliste. Alors, il faut quand même aller regarder à quoi correspondait le surréalisme. Si on veut dire que le surréalisme, c'est créer des situations farcesques, bouffonnes, étonnantes, il y a des pièces dans lesquelles Labiche est surréaliste. Je pense notamment au Chemin de fer. Mais le surréalisme, c'est pas simplement ça. Relisons André Breton, il y a toute une dimension du rêve, une dimension psychologique, une dimension idéologique chez Breton. On ne peut absolument pas dire que de ce côté-là, Labiche est un surréaliste. Et puis, il y a une dernière interprétation, c'est le structuralisme. C'est surtout Claude Lévi-Strauss qui a comparé Œdipe Roi et le chapeau de paille d'Italie. Alors là non plus, il me paraît difficile, même si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure sur le ressort traditionnel des comédies, qui est un aspect structuraliste. Le structuralisme analyse ces points comme étant des espaces clos. On ne peut pas dire que Labiche obéisse à un principe organisateur qui soit caché. Labiche décrit le bourgeois, mais en même temps, il veut faire rire. Donc de ce côté-là, je crois que je partage, je suis très très proche de l'analyse de Gilardot.
J'aurais voulu vous questionner également sur la position politique en fait, d'Eugène Labiche. Plusieurs de ses pièces ont été présentées au château impérial de Compiègne, en présence de Napoléon III. Est-ce qu'il était proche du pouvoir ? Quelle attitude a-t-il adoptée par rapport à la politique du Second Empire et ensuite de la Commune ?
Labiche a-t-il été proche du pouvoir ? En fait, Napoléon III invitait à Compiègne un certain nombre d'auteurs en vogue pour les remercier et les mettre un peu à l'honneur. Labiche a été invité 5 fois, ce qui peut paraître important sur 30 ans. Si on compare avec Scribe, qui était un auteur bien plus en vogue que Labiche, Scribe a été invité 7 fois. On ne peut pas dire qu'il y ait un décalage. Et en fait, chaque fois que Labiche a été à Compiègne, il a présenté des pièces qui n'ont pas plu à l'empereur. Et ces pièces tournaient toutes à peu près autour du même sujet, c'est qu'il mettait en jeu les milieux d'affaires, la concussion des milieux d'affaires, les spéculations des milieux d'affaires, ce qui évidemment ne plaisait pas à l'empereur. Donc de ce côté-là, on ne peut pas dire que Labiche ait été proche du pouvoir. Mais idéologiquement, il l'a été. Il n'a pas été politiquement proche, mais idéologiquement, il a été. Alors, Labiche a toute une histoire. Il a été candidat aux élections législatives en 1848, parce qu'à l'époque, il était républicain, mais il était républicain parce qu'il était hernaniste. Il a été de ceux qui ont défendu Victor Hugo à la bataille d'Hernani. Donc, il était jeune. Il a continué. Le romantisme a débouché vers l'attrait de la République. Il a été candidat. Il a été battu largement. Et à partir de ce jour-là, il est passé dans le camp inverse. Il est passé dans le camp
inverse.
C'est
quelqu'un qui aimait bien les succès, finalement.
Peut-être, peut-être. Mmh. Alors qu'il était déjà riche. Donc, en fait, c'était vraiment pour la notoriété. Et je voudrais mentionner là que les mouvements qu'on constate actuellement dans le monde politique ne sont pas originaux, puisqu'ils existaient déjà au XIXe siècle. Il n'y a pas de problème. Et donc, une fois qu'il a été dans le camp des conservateurs, il n'en a pas changé. Il a voulu approuver, et il a approuvé sans réserve le coup d'État du 2 décembre. Et même après Sedan, il est resté attaché à l'empereur. Et sur la Commune, il a fait partie, alors le concept d'intellectuel n'existait pas encore à l'époque, mais il a fait partie de ceux qui ont été opposés à la Commune. Là, il faut citer ce qu'il écrit parce que c'est très lourd. Je cite « Mon cœur se soulève de dégoût et je rougis de mon pays. Les misérables qui tiennent Paris sont des forcenés, abrutis, sans autre idée que celle de la haine et du pillage. Ils méritent un châtiment terrible et j'espère que le jour de la justice approche. J'espère que cette cruelle expérience aura pour résultat de guérir la France à tout jamais de sa tendresse stupide pour le prolétariat. » Dans ses pièces, il s'oppose aussi au suffrage universel, il le tourne en ridicule à plusieurs reprises. Et puis, dans le domaine politique, pour moi, il professe un peu de nationalisme. Alors, ça m'a valu un accrochage lors de ma soutenance de thèse, parce que dans le monde universitaire, on estime que le nationalisme comme volonté de domination d'un pays sur un autre commence à prendre corps à partir des années 1880. Mm-hmm. Moi, je considère qu'il faut relire le livre de Colette Beaune sur l'histoire nationale de la France. Labiche, systématiquement, essaye de façon régulière d'instiller l'idée que la France est présente, que ça se passe en France. Et j'ai même une interprétation politique de M. Perrichon. Monsieur Perrichon va au Mont-en-Vert, donc au Mont-Blanc. Il ne va pas n'importe comment ni n'importe où. Au moment où il va au Mont-en-Vert, quelques mois avant, c'était la Savoie et qui était indépendante. En 1860, à quelques mois près, j'ai fait la chronologie, il n'était pas en France. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « je vais en France ». Donc vraiment, il affirme la souveraineté. Et là, il est idéologiquement très proche de Napoléon III, puisque Napoléon III et l'impératrice viendront au mois de septembre, quelques jours avant la représentation de M. Perrichon, monteront à partir du Mont-en-Vert et de Chamonix au Mont-Blanc. Donc si vous voulez, là, il y a une correspondance qui, à mon avis, n'est pas gratuite. Je voudrais juste en citer un dernier point. Donc, il parsème M. Perrichon, « Adieu, France, reine des nations hein. ». Mais dans Un pied dans le crime, qui est une pièce de 1866, il fait dire à un de ses personnages, pour traduire l'aspect nationaliste, « Mon fils est en Afrique, il se bat contre les Arabes, il défend les frontières de la France. » Donc moi je dis que si on n'a pas, à travers ces visions-là, la traduction du nationalisme français, eh bien...
Qui était l'idéologie dominante à l'époque.
Qui était... Alors, je vous dis, les universitaires considèrent que c'est venu beaucoup plus tard, notamment après la guerre de 70. Moi, j'ai tendance à penser qu'avant la guerre de 70, eh bien, Labiche essayait de promouvoir l'idée France à travers ses textes. Et pour moi, c'est pas neutre. Je considère que c'est pas neutre et que c'est volontaire, bien évidemment.
Alors, dans votre thèse, vous soulevez la question de l'amoralité possible de Labiche. En quoi, je voulais vous demander, cette problématique est-elle centrale quant au théâtre de Labiche ? La question de l'amoralité, l'inverse de la moralité.
Oui, alors c'est le point d'orgue de la thèse que j'ai soutenue. C'est une question qui m'est apparue centrale assez rapidement. Labiche, d'abord, a l'attrait de la sensualité. Alors ça, on l'a vu, mais... La sensualité, vous savez, Jean Rohoux soutient que le mobile de Racine, c'est la concupiscence. Mmh. Donc, dire que la biche, c'est la sensualité, je ne me sens pas en décalage vis-à-vis de ce type d'analyse. On peut démontrer, il y a toute une série de pièces où il y a des répliques qui montrent et des situations qui montrent cela. Mais au-delà de cette présence de la sensualité, au-delà de la justification de l'adultère, on l'a vu tout à l'heure sur Luther, mais il y a un mot extraordinaire du chapeau de paille d'Italie, c'est l'exclamation « une maîtresse, un jour de noces ». Ça signifie quoi ? Ça signifie que ce n'est pas un jour de noces, bon, c'est assez acceptable, mais ce qui était scandaleux, c'est « une maîtresse, un jour de noces ». Dans le mystère de la rue Rousselet, vous avez aussi une petite réplique qui est assez marrante. Guérino s'adresse à sa nièce. « Je sais que ton mari a des torts ». Agathe, scandalisée. « Me tromper après 2 mois de mariage ?» Guérino qui répond « C'est un peu trop tôt, j'en conviens. » Donc, si vous voulez, l'adultère est justifié, il n'y a pas de problème. Le troisième élément de cette amoralité de la biche, c'est que, pour moi, il accepte et il décrit des comportements qui sont moralement contestables. Et j'en ai cité plusieurs exemples. Mais le plus important, c'est que il faut voir chez la biche, au-delà du jeu théâtral, la réalité de la situation qui reste. Et ça, je ne l'ai pas trouvé fait ailleurs. Je me suis livré à cette étude. Je voudrais vous donner juste 2 ou 3 exemples de situations d'impunité qui me paraissent objectivement amorales. Un monsieur qui a brûlé une dame, c'est la moins grave, mais la plus comique. C'est la femme d'un notaire qui a une liaison simultanée avec les 2 clercs de son mari. Elle est insatiable, cette dame. Le notaire ignore complètement son infortune conjugale, mais il est dupé par sa femme au point de vendre son étude à l'un de ses 2 clercs sans savoir à aucun moment que son épouse a une liaison avec lui. Deuxième exemple, la main leste. C'est la femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, Madame Le Grenard, qui frappe tout le monde. La main leste. Bien. Elle refuse à un jeune d'épouser sa fille au motif qu'il est pauvre. On revient à la problématique du début. Et que fait ce jeune ? Il truque les chiffres. Donc, il truque les chiffres et il lui assure d'un certain nombre de revenus qu'il n'a pas. Et le mariage, l'affaire marche. L'affaire se déroule ainsi. Plus grave, à mon avis, un homme sanguin. C'est un jeune conscrit qui refuse de faire le service militaire et qui veut se faire exempter pour des raisons médicales. Il est poursuivi par les gendarmes, il est attrapé, et qu'est-ce qu'il fait pour se disculper ? Il oriente les recherches sur un innocent. Et parallèlement, le docteur militaire qui est chargé de l'examiner est un escroc qui s'est bâti un faux passé militaire glorieux. Donc le jeune réfractaire qui a eu connaissance de tout ça, il fait du chantage et il obtient auprès de lui non seulement un acte lui permettant de ne pas faire le service militaire, mais de se faire payer un remplaçant. Parce qu'à l'époque, vous savez, on pouvait se faire payer un remplaçant. Puis dernier point, je voudrais noter que quand même, la biche a la tentation du crime. Dans la rue de l'Homme Armé, il y a un gamin de Paris qui veut fusiller un propriétaire, un gamin de 14 ans, donc le rôle de Gavroche et autres, qui veut fusiller un propriétaire qui refuse de monter une garde. Et dans le Prix Martin, un homme montre le projet d'assassiner son meilleur ami au motif qu'il est l'amant de sa femme, crime passionnel quasi, mais il veut l'assassiner, non pas de face par un duel, mais en le poussant dans le dos, dans un gouffre des Alpes, parce que la biche aime bien les Alpes.
Alors donc, la biche est amorale.
Pour moi, la biche est amorale et les commentateurs n'ont pas éludé la question, mais ils ne sont pas allés jusqu'à formaliser un peu ce qui se passait. Jacques Gilardeau, parce que là encore, il faut voir les choses de A à Z. Gilardeau, dont je parle avec intérêt, explique qu'il a éliminé purement et simplement les pièces qu'il jugeait moralement compromettantes. Donc c'est très facile d'étudier un auteur, vous éliminez ce qui ne vous plaît pas. Bien. Emmanuel Eman, lui, est un peu plus fin, il dit « La biche avait une double nature. La biche était politiquement conservateur et même réactionnaire, je crois qu'on est d'accord, mais moralement, il était audacieux. » Ce sont des personnalités qui ont réellement existé, hein, c'est clair. Robert Abirached, lui, prétend que la morale n'intéresse pas du tout la biche, et d'autres, au contraire, comme Bernard Dort, qui est mort l'an dernier, estime que la biche est tout le temps à la limite de la perversité. Et moi, pour conclure sur cette amoralité, je reprendrai un couplet. Il faut lire les couplets, je me suis attaché au couplet, où la biche fait dire à un de ses personnages dans le Prix Martin « Ah, pour cela, point d'embarras, la conscience, ami, ça ne se voit pas. »
Pas vu, pas pris.
Pas vu, pas pris.
Eh bien, nous allons conclure sur ces tristes paroles, si je puis dire. Ce qui est un paradoxe pour ce qui concerne Eugène Labiche. Je vous remercie beaucoup, François Cavaignac. Ainsi s'achève le troisième volet du cycle Eugène Labiche, un académicien amuseur public, réalisé par Ulrich Dachmin et proposé et présenté par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Merci.